Sommes-nous seuls dans l'univers? Peu de questions ont éveillé l'imagination humaine plus profondément que celle-ci. Sommes-nous seuls dans l'univers? Dès l'instant où nous avons levé les yeux vers le ciel nocturne, son immensité même a réclamé une réponse. L'univers que nous habitons est vaste au-delà de toute compréhension. Des centaines de milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles, chacune potentiellement entourée de planètes. La logique semble presque insultée par l'idée que la vie, cette étincelle de conscience et de curiosité, n'est émergée qu'une seule fois dans toute cette abondance cosmique. Et pourtant, la science, notre méthode la plus rigoureuse pour appréhender la réalité, a traité la question de la vie extraterrestre avec une prudence remarquable, voire une suspicion. Dans la plupart des domaines, la science suit une séquence simple et puissante, observation-hypothèse-falsification. Nous observons un phénomène, proposons une explication, puis la testons. Mais lorsqu'il s'agit de la vie ailleurs dans le cosmos, cette séquence a été discrètement inversée. Au lieu d'hypothéser que la vie est probable et de chercher à falsifier cette affirmation, le courant dominant de la science a souvent adopté la position inverse, supposer que nous sommes seuls à moins que des preuves irréfutables ne prouvent le contraire. Cette inversion n'est pas une nécessité scientifique, mais un héritage culturel. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nos visions du monde, philosophiques, religieuses et même scientifiques, ont placé l'humanité au centre de la création. De l'univers géocentrique de l'Antiquité à l'insistance théologique sur l'unicité humaine, nous avons été conditionnés à nous voir comme exceptionnels, voire cosmic man singulier. Bien que la science moderne ait depuis longtemps déplacé la Terre du centre physique de l'univers, une forme subtile d'anthropocentrisme persiste encore dans nos réflexes intellectuels. L'absence de preuves directes de vie extraterrestre n'est pas traitée comme un simple vide temporaire dans les données, mais comme une confirmation silencieuse de notre solitude. Pourtant, la logique, la probabilité et les principes mêmes du raisonnement scientifique pointent dans une autre direction. La même chimie qui a produit la vie sur Terre est universelle. Les mêmes lois physiques régissent les galaxies lointaines. Partout où les conditions rappellent celles de la Terre primitive, eau liquide, source d'énergie stable, molécules organiques, l'émergence de la vie n'est pas un miracle, mais une attente. Dans un univers d'une telle échelle et d'une telle diversité, les probabilités favorisent de manière écrasante l'existence de la vie ailleurs, peut-être microbienne, peut-être intelligente, peut-être inimaginablement alien. La véritable tension réside donc non pas entre science et spéculation, mais entre logique et héritage. La science, dans sa forme la plus pure, devrait être ouverte aux possibilités, guidée par les preuves, mais non limitée par des sentiments historiques ou un confort culturel. La question de la vie extraterrestre met au défi non seulement notre technologie, mais notre philosophie de l'enquête elle-même. Elle nous force à affronter à quel point notre histoire humaine façonne encore profondément ce que nous nous permettons de croire. Dans ce qui suit, nous explorerons cette question à travers des dimensions scientifiques, philosophiques et culturelles, de la physique des mondes habitables à la psychologie de la peur, des chiffres qui promettent de la compagnie au silence qui nous entoure encore. La zone de Goldilocks, plus que la distance. Lorsque les astronomes parlent de l'habitabilité d'une planète, le terme qui apparaît souvent en premier est la zone de Goldilocks, cette bande étroite autour d'une étoile où les conditions sont justes comme il faut pour que de l'eau liquide existe à la surface d'une planète. Trop près de l'étoile, et l'eau s'évapore. Trop loin, et elle gèle. En termes quantitatifs, cela se traduit par environ 1000 watts par mètre carré de rayonnement stellaire, la quantité que la Terre reçoit du Soleil. Mais cette image simple, bien qu'élégante, est profondément incomplète. La zone de Goldilocks n'est pas une ligne unique tracée autour d'une étoile. C'est un équilibre dynamique et multidimensionnel. L'habitabilité dépend non seulement de là où se trouve une planète, mais de ce qu'elle est, sa masse, son atmosphère, sa chaleur interne et son histoire géochimique. Une planète peut orbiter à la distance parfaite et être néanmoins totalement inhospitalière. Prenons Vénus, par exemple, notre soi-disant planète sœur. Elle se situe dans la zone habitable classique du Soleil. Sa distance à notre étoile ne diffère pas de manière spectaculaire de celle de la Terre. Et au début du XXe siècle, certains imaginaient même qu'elle abritait des jungles luxuriantes sous ses nuages perpétuels. La réalité ne pourrait être plus différente. Vénus est trop massive et possède une atmosphère épaisse riche en dioxyde de carbone. Cette enveloppe dense piège la chaleur solaire par un effet de serre dérapant, poussant les températures de surface à près de 470 degrés Celsius 880 degrés Fahrenheit, assez chaud pour faire fondre le plomb. La pression atmosphérique écrasante, plus de 90 fois celle de la Terre, empêche tout refroidissement par convection ou rayonnement. En substance, Vénus est une planète qui n'a jamais réussi à se débarrasser de sa chaleur primordiale. Sa taille même et la densité de son atmosphère l'ont condamnée à une fièvre permanente. Vénus nous rappelle que se trouver dans la zone signifie peu si les paramètres physiques de la planète amplifient la chaleur plutôt que de la réguler. L'habitabilité n'est donc pas un critère unique. C'est un délicat jeu d'interaction entre l'apport stellaire et la réponse planétaire. De l'autre côté de la zone de confort solaire se trouve Mars, plus petite, plus froide et désolée. Avec seulement environ un dixième de la masse de la Terre, Mars manque de gravité pour retenir une atmosphère épaisse. Au fil de milliards d'années, les vents solaires ont arraché une grande partie de son enveloppe gazeuse, ne laissant qu'un voile fin de dioxyde de carbone. Avec peu d'isolation atmosphérique, la chaleur de surface s'échappe librement dans l'espace, et la planète s'est en grande partie gelée. Ironiquement, Mars s'est refroidi plus rapidement que la Terre en raison de sa petite taille. Dans sa jeunesse, ce refroidissement rapide signifiait qu'elle pouvait avoir atteint une phase habitable avant la Terre. Des preuves géologiques et chimiques soutiennent cette idée. D'anciens lits de rivières, des deltas et des formations minérales racontent l'histoire d'une eau jadis coulant. La découverte d'oxyde de fer, de la rouille, en substance, nous donne des indices circonstanciels mais alléchants d'un cycle de l'oxygène, et peut-être même d'une activité biologique. Mars, en bref, a peut-être été le premier monde de notre système solaire à abriter la vie, même si ce n'était que brièvement. Entre l'enfer de Vénus et le grand gel de Mars se trouve la Terre, le terrain intermédiaire improbable où température, masse et atmosphère s'alignent en un équilibre presque parfait. Cet équilibre est fragile. Modifier la taille de la Terre, sa distance orbitale ou la composition de son air ne serait ce que modestement, et les conditions pour la vie telles que nous la connaissons disparaîtraient. Cette prise de conscience a remodelé notre recherche de vie au-delà du système solaire. Les astronomes cherchent désormais des analogues de la Terre, des planètes non seulement à la bonne distance de leurs étoiles, mais aussi avec la bonne masse, une chimie atmosphérique appropriée et une dynamique interne. La planète idéale doit se refroidir au bon rythme, recycler ses gaz par le volcanisme et la tectonique des plaques, et maintenir un climat stable assez longtemps pour que la vie émerge. En d'autres termes, l'habitabilité n'est pas une propriété fixe de l'orbite d'une planète. C'est un état en évolution, le produit d'un équilibre cosmique et du temps géologique. La leçon de notre propre système solaire est humiliante. Sur trois planètes telluriques qui ont commencé avec des ingrédients et des orbites à peu près similaires, Vénus, Terre et Mars, seule une reste habitable aujourd'hui. Les autres, malgré qu'elles répondent à la définition du manuel d'être dans la zone de Goldilocks, sont devenues les victimes de leurs propres paramètres physiques. Si la vie existe ailleurs dans l'univers, elle doit habiter des mondes où d'innombrables facteurs de ce genre se sont alignés. Des mondes qui, comme la Terre, ont trouvé et maintenu cet équilibre éphémère entre trop et trop peu, trop chaud et trop froid, trop petit et trop grand. La zone de Goldilocks n'est donc pas simplement un lieu dans l'espace. C'est une condition d'harmonie entre étoiles et planètes, entre énergie et matière, et peut-être, entre hasard et inévitable. L'immensité de l'univers. Notre galaxie, la Voie lactée, contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles, et presque toutes abritent des planètes. Même si seulement 1% de ces étoiles possèdent un monde semblable à la Terre, cela représente encore des milliards d'abris potentiels pour la vie dans notre galaxie seule. Au-delà s'étendent 2 billions de galaxies dans l'univers observable. Les chiffres dépassent la compréhension, et avec eux, la probabilité que la Terre soit unique devient infime. Le principe copernicien nous dit que nous ne sommes pas centraux. Statistiquement, nous ne sommes pas exceptionnels non plus. Pourtant, nous n'avons trouvé aucune preuve définitive de vie ailleurs. L'immensité qui rend la vie probable la rend aussi insaisissable. Même pour notre plus proche voisin, Proxima Centauri, à 4 années-lumière, une planète semblable à la Terre apparaîtrait des milliards de fois plus faible que son étoile, un ver luisant orbitant autour d'un projecteur. Dans cette immensité, le silence n'est pas surprenant. Il est attendu. Écoutez les étoiles. Si la vie ailleurs est probable, alors la vie intelligente, capable de communication, devrait avoir laissé des traces. Cet espoir a inspiré la recherche d'intelligence extraterrestre, SETI, scannant le ciel à la recherche de signaux radio que la nature ne produirait jamais. Au XXe siècle, la Terre elle-même était un phare radio. La télévision, les radars et les émetteurs radio diffusaient des signaux de mégawatts dans l'espace, facilement détectables à des années-lumière. Les premiers scientifiques de la SETI supposaient que d'autres civilisations pourraient faire de même, d'où la recherche de signaux à bande étroite près de la ligne d'hydrogène à 1420 MHz. Mais notre planète devient plus silencieuse. La fibre optique, les satellites et les réseaux numériques ont remplacé la diffusion à haute puissance. Ce qui était autrefois un cri planétaire brillant n'est plus qu'un murmure. La phase radio de notre civilisation pourrait ne durer qu'un siècle, un clin d'œil dans le temps cosmique. Si d'autres évoluent de manière similaire, leurs fenêtres de détectabilité pourraient ne jamais se chevaucher avec les nôtres. Nous pourrions être entourés de voix, mais parlant au mauvais moment, de la mauvaise manière, sur des canaux que nous ne partageons plus. Comptez les voix dans l'obscurité. En 1961, l'astronome Frank Drake a proposé un cadre pour estimer combien de civilisations capables de communication pourraient exister dans notre galaxie. N égale R-ba, clin d'œil fois F-ba P, fois N-ba, E, fois F-ba Z, fois F-ba I, fois F-ba C, fois L. Chaque terme resserre le champ, du taux de formation des étoiles, R, à la fraction avec des planètes, FP, à celle dans les zones habitables, NE, aux planètes où la vie émerge, FL, l'intelligence évolue, FI, la technologie apparaît, F-C, et enfin, combien de temps de telles civilisations restent détectables, L. L'optimisme initial de Drake supposait que les civilisations diffuseraient des signaux radio puissants, peut-être pendant des millénaires. Mais notre propre phase bruyante s'estompe déjà, et le terme final, L, la durée de détectabilité, pourrait être tragiquement courte. Si notre fenêtre ne dure que quelques siècles dans une galaxie vieille de milliards d'années, il n'est pas étonnant que nous n'ayons pas encore entendu une autre voix. L'équation n'a jamais été destinée à donner un nombre final. Elle visait à nous rappeler ce que nous ignorons, et à montrer que, même dans l'incertitude, l'univers est probablement peuplé d'autres qui, comme nous, essaient d'être entendus. Crier dans l'obscurité. Pendant des décennies, notre fuite radio était accidentelle. Un sous-produit involontaire de la communication. Mais maintenant, certains scientifiques ont proposé le METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, envoyer intentionnellement des signaux puissants et structurés vers les étoiles proches, pour annoncer que nous sommes là. Les partisans soutiennent que le silence est autodestructeur, que si tout le monde écoute mais que personne ne parle, la galaxie restera éternellement muette. Les critiques, cependant, mettent en garde contre le danger. Nous ne savons pas qui pourrait écouter. La prudence exprimée par Stephen Hawking, que crier dans une jungle obscure invite des prédateurs inconnus, fait écho à une peur bien plus ancienne. Que le contact entre des puissances inégales se termine mal pour le plus faible. Ce débat révèle une ambivalence profonde. Nous aspirons à savoir que nous ne sommes pas seuls, mais hésitons à risquer d'être connus. Notre technologie nous rend capables de communication cosmique, mais notre histoire nous rend prudents. La question n'est plus de savoir si nous pouvons envoyer un message, mais si nous devrions. Réflexion sur le pouvoir et la peur. Notre hésitation à nous ouvrir n'est pas née de la superstition, mais du souvenir. Lorsque nous craignons que le contact alien mène à la conquête, nous nous rappelons en réalité notre propre passé. Les rencontres de la civilisation occidentale avec l'inconnu, les Amérindiens, les peuples aborigènes d'Australie, les Africains sous la domination coloniale, et aujourd'hui le peuple palestinien, révèlent un schéma constant, domination justifiée comme illumination, curiosité devenue contrôle. Le langage de la découverte a souvent masqué la réalité de l'exploitation. Ainsi, lorsque nous imaginons les aliens comme des conquérants, nous projetons nous-mêmes sur le cosmos. Les autres que nous craignons ressemblent à ceux que nous étions autrefois. Notre peur est un miroir. L'éthique du contact commence donc sur Terre. Avant de pouvoir rencontrer une autre intelligence parmi les étoiles, nous devons apprendre à nous rencontrer les uns les autres avec dignité. La mesure de notre préparation à la compagnie cosmique est notre capacité d'empathie, non notre technologie. Peut-être l'univers est-il resté silencieux, non pas parce qu'il est vide, mais parce que les civilisations qui survivent assez longtemps pour communiquer ont appris la discrétion, la patience et l'humilité. Si c'est le cas, le silence pourrait être un acte de sagesse. Un message retourné. Après toutes les probabilités et les peurs, nous arrivons à une vision plus optimiste. Une vision capturée dans Contact de Carl Sagan. Lorsqu'un signal structuré arrive de Vega, l'humanité apprend qu'elle n'est pas seule. Le message inclut des instructions pour construire une machine permettant à une unique voyageuse, le Dr Ellie Arroway, de voyager à travers un réseau de trous de verre et de rencontrer les émetteurs. La rencontre n'est pas une conquête, mais une conversation, non un avertissement, mais une étreinte. L'histoire d'Arroway incarne le meilleur de nous, courage tempéré par l'humilité. Raison guidée par l'émerveillement. Les aliens qu'elle rencontre ne dominent pas. Ils guident. Ils nous rappellent que la survie, à l'échelle cosmique, pourrait dépendre non du pouvoir mais de la coopération. Leur message est simple, nous avons tous lutté, nous avons tous enduré, vous n'êtes pas seul. Ellie Arroway a été inspirée par le docteur Jill Tarter, une astronome réelle qui a cofondé l'Institut SETI et consacré sa carrière à écouter les voix parmi les étoiles. Sagan connaissait Tarter personnellement et a basé l'intellect et la détermination d'Arroway sur elle. À une époque où les femmes en science faisaient face à d'immenses barrières, la persévérance de Tarter était en soi un acte de révolution silencieuse. Elle a un jour dit « Nous sommes le mécanisme par lequel le cosmos peut se connaître lui-même ». Cette phrase capture le cœur de son travail et de la vision de Sagan, que la recherche des autres est aussi une façon pour l'univers de devenir conscient de lui-même à travers nous. L'histoire de Sagan et la vie de Tarter offrent une alternative à nos angoisses. Elle suggère que la connaissance et l'empathie pourraient évoluer ensemble, que les civilisations capables de survivre assez longtemps pour atteindre les étoiles doivent d'abord apprendre la compassion. Peut-être le silence que nous entendons n'est-il pas le vide, mais la grâce, le silence respectueux de civilisations attendant que nous grandissions en sagesse pour rejoindre la conversation. Chaque télescope pointé vers le ciel est aussi un miroir reflétant vers l'intérieur. En écoutant les autres, nous écoutons le meilleur en nous-mêmes, l'espoir que l'intelligence peut coexister avec la gentillesse, que la vie peut aller au-delà de la survie vers le sang. Si l'univers répond un jour, ce ne sera peut-être pas avec des instructions ou des avertissements, mais avec une affirmation. Vous faites partie de quelque chose de plus grand. Continuez à écouter. Que le signal arrive demain ou dans 1000 ans, la quête elle-même nous définit déjà. Elle prouve que, même dans notre petitesse, nous osons espérer. Car la question « sommes-nous seuls ?» n'a jamais vraiment été sur eux. Elle a toujours été sur nous, sur qui nous sommes, et qui nous pourrions encore devenir.